franceinter.fr.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Journal de la 2. Reportage sur un déplacement de Monsieur le Président de la République qui évoque les gens qui sont assujettis au RSA. Il ne faut pas se contenter de tendre la main. Il faut, au nom de la dignité, fournir des heures de travail. Et ce disant, il joint le geste à la parole pour imager son propos. Les gens qui sont au RSA font l'aumône. Merci, Monsieur le Président de la République. C'est incongru.
Salut Daniel, ça y est, Nicolas Sarkozy entre en campagne avec ses boucs émissaires favoris, les assistés. L'assistana, mot qu'il a créé de toutes pièces pour la campagne de 2007. D'ailleurs, Ségolène Royal ne l'a jamais repris sur ce mot, ce qui est dommage. Elle aurait pu employer l'expression solidarité nationale. Bref, Sarkozy ose parler du Conseil national de la Résistance. Décidément, il nous aura tout fait. Lui qui se prend pour l'héritier du général de Gaulle est plutôt l'héritier du maréchal Pétain. Travail, famille, mondialisme. D'ailleurs, on apprend que le même jour, 5000 emplois seront supprimés de PSA. Sur ces 5000 personnes au chômage, 3500 au moins entreront dans l'assistanat à moyen ou long terme. Un exemple, une personne seule au RSA touche 470 euros suivant le département où il vit. 470 euros, c'est le prix d'un ensemble string et soutien-gorge de Carla Bruni. Franchement, c'est pas beaucoup. C'est Romuald de Louviers, dans l'heure.
Pourtant, le rapprochement entre les deux informations était évident, même pour un journaliste débutant. Eh bien non, les auditeurs n'auront pas la deuxième information qui donne du sens à la première. Nous avons tous entendu ce matin que la police new-yorkaise du maire Michael Bloomberg avait fait évacuer les indignés de Wall Street. Mais on ne nous a pas dit que Michael Bloomberg a fait fortune avec son groupe d'information financière et notamment ses chaînes de TV, Bloomberg TV, qui donnent des informations boursières 24 heures sur 24. Comme conflit d'intérêts, on ne peut pas faire pire pourtant.
Je fais partie des indignés nantais, donc présents sur la place Royale depuis le 11 novembre dernier. On a campé. Moi, j'ai beau avoir un gamin, j'ai réussi à camper trois fois en s'organisant un petit peu. Voilà, on peut participer activement à ce mouvement. Aujourd'hui, le truc qui se passe, c'est que la police, avec son jeu pathétique de vouloir mettre la pression sur des gens qui n'ont pas obligatoirement l'habitude de ce genre de rapport avec eux, ont déplacé, donc ils ont réussi à faire déplacer le campement du côté d'Hôtel Dieu, sur la ligne 2-3, à Hôtel Dieu face au skatepark. C'est super important pour nous que les AMG nantais, bretons d'ailleurs, commencent à peut-être soutenir ce mouvement aussi, continue. On a besoin que les gens se déplacent, participent aux assemblées. On vous demande surtout de la présence pour que ce mouvement arrête de se marginaliser. La police joue ce jeu-là pour nous déstabiliser et nous faire capoter cette belle expérience qu'on a commencé à vivre avec cette brèche ouverte, Place Royale. Merci, au revoir.
Bonjour, j'aime bien lire ça avant de m'endormir. Et en ce moment, je lis La mentalité américaine. Et hier soir, je suis tombée sur quelque chose d'intéressant par rapport à l'émission de ces jours derniers et surtout par rapport aussi à la Dame de Melun. Donc c'est en 1911, Emma Goldman, anarchiste et féministe russo-américaine, qui a donné une conférence sur le sujet du patriotisme où elle disait « Mépris, arrogance et égoïsme sont les trois éléments fondamentaux du patriotisme. Suivant la théorie du patriotisme, notre globe serait divisé en petits territoires, chacun entouré d'une clôture métallique. Ceux qui ont la chance d'être nés sur un territoire particulier se considèrent comme plus vertueux, plus nobles, plus grands et plus intelligents que ceux peuplant tous les autres pays. Et c'est donc le devoir de tout habitant de ce territoire de se battre, de tuer et de mourir pour tenter d'imposer sa supériorité à tous les autres. Voilà. Au revoir. »
Oui, le terrorisme est une forme de résistance lorsqu'il s'attaque à une puissance occupante et qu'il frappe sans distinction militaire et civile. Je prends pour exemple le terrorisme sionisme des Juifs de Palestine contre l'occupant anglais au service d'une cause, la création d'un État juif, Israël, au Proche-Orient. Ainsi, les groupes paramilitaires tels que l'Irgun, le groupe Stern et la Haganah, l'embryon de l'armée israélienne, ont perpétué des milliers d'attaques terroristes entre 1943 et 1948, dont les plus marquants sont L'explosion de l'hôtel du roi David à Jérusalem le 22 juillet 1946, qui fit près de 91 morts et plus de 45 blessés graves. L'assassinat du comte Folke Bernadotte, médiateur de l'ONU, le 17 septembre 1948. L'histoire s'écrit par les vainqueurs. Et les soutiens d'Israël ont bien la mémoire courte. Fabrice, Paris, 19e.
Bonjour. C'est Sandrine à Marseille. Voilà, je voulais partager avec vous mon effarement par rapport à la proposition d'instaurer des jours de carence en cas d'arrêt maladie. Tout d'abord, je trouve cette mesure complètement injuste. Il y a encore quelques semaines, toute la presse était unanime à placer les Français parmi les premiers dans le palmarès de ceux qui avaient le moins recours au congé maladie, ce qui veut dire que l'énorme majorité des Français n'en abuse pas. Or, l'instauration de ces carences va nous pénaliser tous. Et donc qu'on ne se trompe pas d'objectif. En essayant de profiter du manque de solidarité entre nous et en prétendant lutter contre les fraudeurs, en réalité, on essaye de nous mettre un tour de vis supplémentaire à tous. Ensuite, je crains que cette mesure soit inefficace. Que penser des gens qui vont aller contagieux au travail? Qu'aurons-nous gagné s'il y a encore plus d'arrêts maladie à la sortie? Et pour finir, cette mesure va être dangereuse. Quelle sera l'efficacité d'un conducteur de centrale nucléaire à son poste avec 40 de fièvre? Merci beaucoup pour votre émission. Au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Nous partons pour la Grèce en reportage. On vous racontera ça à notre retour. Peut-être qu'on vous donnera des nouvelles de ce qui se passe. C'est terrible, d'après les échos que nous avons et les informations que nous avons tous, vous et nous, sur la Grèce. Demain, jeudi, il y a des grandes manifestations à Athènes et à travers le pays pour l'anniversaire de la fin de la dictature des colonels, et il se pourrait qu'il y ait un lien fait entre cette dictature passée et celle des marchés aujourd'hui, la dictature des marchés. Je l'évoquais hier, un peu comme au Portugal. On a des nouvelles assez sinistres de ce qui se passe dans ce pays, à Patras, par exemple, dans le port de Patras. Cette nouvelle terrible, une femme qui avait été prise en train de voler des t-shirts, 3 t-shirts pour ses enfants, a été amenée au commissariat de police où elle s'est suicidée devant les flics. Et cette nouvelle a eu une importance assez secondaire. La presse a dit « Ah ben voilà, c'est des histoires de sécurité, il faut une meilleure sécurité dans les commissariats ». Ça donne une petite idée du chaos dans lequel ce pays est en train de plonger. On vous racontera ça au fur et à mesure et à notre retour. Pendant ce temps-là, les Verts et le Parti Socialiste sont en train de discuter, de concocter un accord sur le nucléaire. Sortir beaucoup du nucléaire, un peu du nucléaire ou pas du tout du nucléaire, c'est une question qui revient très souvent. Et là-bas, si j'y suis, s'y est intéressé, au printemps dernier, Antoine Chaou est allé à Brennilis, la fameuse centrale de Brennilis, et son démantèlement. Le démantèlement de Brennilis qui doit être et devait être, vous allez voir, selon EDF et le CEA, une opération vitrine. Car sortir du nucléaire un peu, beaucoup, passionnément, c'est très beau, mais il y a les questions aussi du démantèlement. Comment démantèle-t-on? Et quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer? Ben, c'est ce qu'on va voir au cours de cette heure de là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut les AMG. Alors, une petite annonce de la part d'Acrimed, Action Critique Média, l'Observatoire Critique des Médias. L'antenne lyonnaise de l'association Acrimed 69 organise une rencontre débat avec Thierry Dissépolo, le responsable des éditions Agone. Thierry Dissépolo vient de publier un livre important qui s'appelle « La trahison des éditeurs », un ouvrage qui décrit et dénonce les transformations du milieu éditorial français. Et dans son livre, il s'interroge sur les responsabilités sociales mais aussi politiques de son métier. Plus qu'une critique du modèle économique de l'édition, cet ouvrage est un véritable plaidoyer en faveur des artisans et non des commerçants du livre. Alors cette rencontre débat, ça se passe jeudi 17 novembre à la librairie Terre des Livres, qui se situe à Lyon, donc au 86 rue de Marseille, à 19h. Voilà, la librairie Terre des Livres, on vous y attend nombreux.
On a pu entendre l'inquiétude des cols blancs de Peugeot Citroën qui doit délocaliser une partie de son staff de recherche à l'étranger. Là, c'est les cols blancs cette fois-ci. C'est plus pareil. On va peut-être en entendre parler pour une fois.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. On se retrouve ce soir pour un nouveau repère de la base où j'y suis à Verdun, à l'Estaminet, à partir de 20h30. Le thème retenu pour cette soirée, c'est donc l'agriculture biologique. Et on accueillera le président du groupement régional des agriculteurs biologiques de Lorraine. Donc voilà, ça risque d'être assez intéressant. Eh bien, on vous attend très nombreux pour ce soir, pour ce nouveau repère de la base où j'y suis, à Verdun, dans la Meuse. Merci.
Voilà, on est dans les monts d'Arrée, en Bretagne, dans le Finistère. En face, le réacteur nucléaire de Brennilis, qui a été mis en service en 67 et arrêté en 1985, donc 26 ans maintenant, et qu'EDF essaye de démanteler et s'en servir comme vitrine du démantèlement. Mais ça ne se passe pas si facilement que ça.
Il y a des risques donc avec le nucléaire. Est-ce que le nucléaire est toujours une énergie d'avenir ?
LCI, 14 mars 2011.
Mais il y a des risques avec toute activité humaine et a fortiori avec toute activité industrielle.
Là, ils sont colossales.
Éric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique.
La France, comme beaucoup d'autres pays, mais la France peut-être plus que d'autres pays, simplement essaie de prendre toutes les précautions.
Quand j'ai été contaminé, ils m'ont mis un compteur Geiger sur la poitrine. Et hop, l'aiguille est partie en butée. On dit alors, quand est-ce que je vais crever, quoi, quel risque j'ai? Tu pèses combien? 60 kilos. Bon, bah, tant de picocurie divisé par tant de kilos, ça fait... Tu risques rien, tu es en dessous de la norme. Et en fait, mon œsophage, puisque c'était dans l'œsophage que ça se trouvait, il ne pesait pas 60 kilos. Non, hein.
Nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui est considérée comme la plus exigeante au monde.
Et donc il ne fallait pas diviser par 60, mais par quelques grammes. Voilà. Et là, peut-être que ce n'était pas inoffensif.
Et chaque fois qu'il y a un incident, c'est communiqué.
J'ai demandé mon dossier médical il y a 4 mois, je l'ai eu. Et j'ai 2 ans dessus sur les 30 ans. J'ai que les 2 ans de Pierre Latte à Brennilis, rien. Ils l'ont perdu. Et sur les 2 ans, j'ai trouvé des traces d'uranium dans les urines, dis donc. Ils ne m'avaient jamais rien dit.
Oui, l'industrie... Il y a un risque, mais c'est aussi ce qui apporte le progrès, le confort. Et pour le nucléaire, le gouvernement français fait preuve d'une transparence absolue.
Alors EDF, voilà, on est devant. EDF cite des monts d'arrêt, centre d'information du public, le fameux CIP. Heure d'ouverture, le mercredi de 9h à 12h, de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements 02 98 99 69 06. CIP Brennilis@edf.fr. Tentez votre chance, hein, vous aurez peut-être plus de chance que moi.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao.
Bienvenue à la centrale nucléaire.
Transparence absolue.
Bonjour, je suis au CIP de Brennilis, au Centre d'information du public de la centrale de Brennilis. Je vous appelle pour les visites pendant la semaine de l'industrie. Donc j'ai vu une annonce dans le Télégramme.
Oui.
Qui annonçait des visites donc, de la centrale en démantèlement.
Alors, malheureusement, toutes nos visites sont complètes.
Parce que moi, j'avais lancé une demande par Internet sur votre site avant le 18.
Alors, vous êtes monsieur ?
Chao, Antoine.
C'est vrai qu'on a été très, très vite complet.
J'imagine, là. Parce que c'est vraiment la question du démantèlement là, des centrales qui se pose.
Oui, oui, ouais, c'est vrai. Bah alors, je pense que si on vous a pas confirmé, c'est que c'était déjà complet. C'est vrai que comme on a eu beaucoup de demandes, on n'a pas eu le temps encore de faire tous les mails pour proposer aux gens de les mettre sur liste d'attente.
Alors, mais peut-être qu'on peut faire des demandes différentes quand il s'agit de la presse, quoi, parce que je suis journaliste, donc peut-être que par le service de presse.
Alors, je sais qu'il y a, je peux pas vous dire avec certitude, mais on va peut-être organiser une journée presse avant la semaine de l'industrie, justement.
Ah, très bien.
Avec des visites. Donc à ce moment-là, peut-être que Éventuellement, ça serait possible. Bah écoutez, je vais voir ça avec mon collègue parce que c'est lui qui s'occupe de la journée pour la presse. Et puis, on vous tient au courant au plus tard début de semaine prochaine.
Formidable.
Lundi ou mardi. Voilà.
Enfin, bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Ténèbres, à peine trouvées de quelques pauvres lueurs. Le vent, le froid, la nuit, une silhouette squelettique, une tête de gargouille qui émerge de l'obscurité, un mendiant édenté. Puis à nouveau la nuit. Et oui, vous avez reconnu. Nous sommes en Allemagne dans 20 ans. L'Allemagne qui a cru devoir sortir du nucléaire. L'Allemagne revenue à l'âge de la bougie et de la lampe à huile. Eh ben, nous, ça nous arrivera pas. À nous, les Français, champions du nucléaire. Tchernobyl ? Bah oui, mais c'est chez les Ruskov. Fukushima, c'est chez les Japonais. Three Mile Island, c'était les Américains. Nous, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Nous, on est Français.
La France peut-elle se passer du nucléaire ?
Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire, à condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen-Âge.
Mais oui, il a raison, Jean-Marc Sylvestre. Il n'est pas seul à penser ça. Il n'est pas seul à le dire. Et maintenant, autre chose, évoquons un déjeuner sur l'herbe. Quoi de plus agréable qu'un déjeuner sur l'herbe ? La nappe qu'on déplie, les victuailles, le saucisson, le cidre, la sieste, crapuleuse peut-être. Quoi de plus agréable que ce petit plaisir et quoi de plus simple ? Eh bien, pour les gens du coin de Brénilis, c'est un horizon formidable. C'est impensable pour l'instant. Ça ne se réalisera peut-être pas, peut-être jamais de leur vivant. Ils en rêvent de manger sur l'herbe, de déjeuner sur l'herbe. Les habitants de Brénilis, au temps du déjeuner sur l'herbe, de la toile de Manet qu'on vient admirer. Hors de cette toile, autour, dans Paris, en Europe, partout en Occident, les scientifiques, les savants avaient des grands projets de marcher sur la Lune, on l'a fait, de descendre au fond de la mer, on l'a fait, de produire industriellement des quantités de choses, on l'a fait, on l'a fait. Et maintenant, le dimanche, en famille, on va regarder une peinture avec des gens qui déjeunent sur l'herbe. Et c'est devenu un rêve, et c'est devenu une utopie, un horizon, déjeuner sur l'herbe. C'est le rêve des habitants de cette bourgade de Brénilis dans les Monts d'Arrée, où nous allons avec Antoine Chao, où une centrale nucléaire a été construite en 1967, inaugurée en 1967, un réacteur de 70 mégawatts. L'EDF s'est aperçu que ce n'était pas rentable. Bon, très bien, alors on l'a arrêté en 1985. C'est pas d'une très grande beauté dans ce paysage, une espèce de gros bloc cylindrique de 56 mètres de haut, si vous connaissez les Monts d'Arrée, voilà, c'est là, c'est Brénilis. Alors, on a commencé à la démanteler, cette tour, on a fait ça à moitié. On a fait ça à moitié, l'EDF, on est prudent, hein. Vous avez vu la sûreté, oh là 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 là, ça c'est le plus important, c'est la sûreté. Mais quand même, il y a ces emmerdeurs d'anti-nucléaires qui ont réussi à influencer le Conseil d'État pour que le démantèlement soit suspendu. C'est des gens qui n'ont pas le sens du risque. Ce que vient de le dire Éric Besson, dans toute activité humaine, il y a des risques. Eh bien, ces gens-là ne veulent pas prendre de risques. Ils arrivent à se faire soutenir par le Conseil d'État. Mais ça va peut-être repartir, hein. On va peut-être y arriver. C'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça que Antoine Chao a essayé de se documenter, de s'informer pour lui et surtout pour nous, les auditeurs et les Françaises et les Français et toutes les habitants de cette planète. Parce que ce qui est embêtant avec la nucléaire, c'est que ça ne se limite pas aux frontières. Si ? Ah bon ? Mais alors, on va essayer d'en savoir plus d'ici à 16h. Sur France Inter, dans la base, si j'y suis, bienvenue à la centrale nucléaire.
Bienvenue à la centrale nucléaire. Notre visite guidée a pour but de démontrer que l'énergie nucléaire est sans danger.
Veuillez revêtir votre combinaison synthétique et vous munir de votre badge magnétique.
La régulation de la masse critique s'effectue par servo-contrôle automatique. Toutes les commandes atomiques sont gérées par énergie quantique.
Une petite fuite s'est déclarée à proximité.
Pour le moment, il n'y a aucun danger. Vous allez tous être contaminés.
Le voltage 909 est surchargé. La fission n'est plus contrôlée.
Inutile de paniquer. Vous n'avez plus le temps d'évacuer.
Brennilis, un petit bourg au cœur même de la région désolée des Monts d'Arrée.
ORTF, 16 avril 1966.
Une herbe rase, quelques touffes d'ajoncs recouvrent les pentes dénudées qui descendent vers le lac. Au loin, la vénérable chapelle qui coiffe le mont Saint-Michel de Braspar. Image enfuie, car sur un autre sommet, celui de Roc Trédudon, la fine aiguille de l'antenne de l'ORTF, signe des temps modernes, le progrès est venu, et ici même à Brennilis, longtemps figé dans son passé, se préfigure l'avenir. La construction d'EL4, la centrale nucléaire des Monts d'Arrée, s'achève. Mais qu'en pense-t-on dans le petit bourg breton ?
C'est un coin exceptionnel quand même ici.
Oui, vous trouvez ? Moi je trouve aussi.
On surplombe tous les Monts d'Arrée et quand on est ici à Trédudon, alors c'est un petit hameau ici, c'est ça ?
Oui. On appelle ça, c'est un village. En Bretagne, c'est ça qu'on appelle un village.
Et quand on est ici à Trédudon et notamment au col, on voit au loin Brennilis, la centrale.
Oui.
Voilà.
Ça, elle est visible de partout.
Il est question de le démanteler et c'est pas si simple, quoi.
Mais apparemment, non.
On sait les fabriquer, mais on sait pas encore vraiment les démanteler.
Apparemment, c'est très compliqué, non ? Ça nous inquiète. On se demande pourquoi ils se précipitent à vouloir démanteler tout de suite, alors que si on la laisse tranquille, la radioactivité va diminuer à l'intérieur et puis on se donne le temps de réfléchir au démantèlement. On a quand même quelques réacteurs à démanteler en France.
Vous préférez que cette centrale reste là, qu'elle termine sa vie radioactive là, et plutôt que d'aller polluer un autre endroit, c'est ça ? Vous êtes prêt à la garder près de chez vous, près de votre petit paradis, là, des Monts d'Arrée ?
De toute façon, elle est là. Tant qu'il n'y a pas de solution pour les déchets, autant qu'elle reste là, c'est pas la peine de la transporter d'un endroit de la France, puis de la retransporter quelques années plus tard à un autre endroit.
Vous êtes à quoi ? À quelques kilomètres donc, de la centrale de Brennilis ?
Oui, à vol d'oiseau, je suis à 5-6 kilomètres.
Voilà Antoine Chao à Trédudon avec Bernadette Lalouette. Vous entendez d'ailleurs les petits oiseaux autour de nous, c'est quand même bien. C'est pas si facile ce qu'on vient d'entendre là. Ah oui, parce que quand on va autour des centrales nucléaires en France et qu'on va voir les habitants, alors on leur dit, dites donc, qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça au pied de la centrale ? Oh, ça va, vous savez, non, c'est pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de problèmes et... Mais il pouvait tout à fait rencontrer quelqu'un qui vous dit la centrale, mais quelle centrale ? Oui, parce que il faut aux alentours des centrales, très souvent, bon, d'abord la centrale fait vivre parfois les gens, il y a des emplois, il y a des retombées, pas radioactives mais économiques. ou un petit peu radioactif, mais enfin, ça, bon, là, là, on prend des risques, hein, parce que disait M. Besson, Eric Besson. Mais il y a surtout que ces petites municipalités autour, bah, c'est des belles routes, des beaux ronds-points, des belles piscines municipales, un tennis. Voilà, l'EDF sait être généreuse avec ses amis. Ça rend les gens compréhensifs. Si bien que ce n'est pas facile de trouver des opposants ou des gens simplement lucides. Ce n'est pas si facile.
Oui, allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Antoine Chao, je suis journaliste à l'émission Là-bas, si j'y suis, sur France Inter.
Oui.
Et j'ai appelé au CIP Brennilis la semaine dernière. Il y a 10 jours, oui, pour faire une visite.
Donc... D'accord. Alors, moi, j'avais transféré ça à la personne qui s'occupe de la communication. Et normalement, c'est eux qui doivent vous rappeler.
Ah.
C'est pas, ça se passe pas au niveau du site. Par contre, ce que je peux faire, c'est rappeler, et puis pour voir où est-ce que c'est parti, entre guillemets, et puis pour qu'ils vous disent de vous rappeler.
Mais je ne comprends pas, parce que bon, déjà, j'avais fait une demande pour faire une visite publique.
Entre le 5 et le 9, oui.
Alors ça, j'avais fait une demande à titre personnel, donc sans matériel de travail, et je n'ai pas eu de réponse non plus.
Oui, c'est normal, parce qu'on a été... il y avait beaucoup de demandes à traiter. Mmh. Donc c'est pour ça. Et donc après, le temps qu'on envoie les mails pour dire que c'était complet, c'est pour ça que ça n'a pas été fait immédiatement.
D'accord.
C'est pour ça.
Mais quand Henri Proglio prône une transparence, une responsabilité, etc., c'est quand même inquiétant que EDF ne soit pas capable de répondre à quelques mails. Je me réfère à l'article qui est paru dans le journal Le Monde, donc daté du 19 mars. Signé donc Henri Proglio sur la sûreté des installations, notre obsession. Alors c'est dans la page débat et donc la lettre d'Henri Proglio, donc PDG d'EDF, termine. Pour l'heure, les Français, légitimement inquiets devant les images de la catastrophe qui frappe le Japon, attendent de nous de la responsabilité et encore plus de transparence. Nous leur devons, nous les leur donnerons.
Bah écoutez, ça après je vais pas, enfin voilà, moi j'ai pas à m'exprimer entre guillemets là-dessus, donc là faudra voir avec la personne qui vous recontactera au niveau d'EDF.
C'est pas pour cette fois-ci la transparence donc.
Voilà, moi je vous dis, moi j'informe EDF et puis les personnes et puis je leur dis que vous avez rappelé.
D'accord, je vous remercie.
Il y a pas de quoi.
Au revoir.
Au revoir.
Je crois que on peut garder à l'esprit.
RTL, 16 mars 2011. Henri Proglio, PDG d'EDF.
D'abord, la conviction que le nucléaire est très techniquement complexe et qu'il ne faut jamais oublier les règles de sécurité essentielles. On vit dans le nucléaire avec l'obsession de la sécurité. C'est le cas chez EDF. C'est enfin une industrie très, évidemment, contrôlée et très transparente.
Alors voilà, on est devant l'INB 28, l'installation nucléaire de base numéro 28, appelée plus familièrement l'EL4, hein, c'est ça, comme le réacteur EL4 à eau lourde numéro 4, donc le quatrième du nom, qui a été installé ici à Brennilis, sur le bord du lac Saint-Michel. Alors Michel Marzin, vous avez travaillé ici à cette centrale, hein, vous étiez... technicien, c'est ça ?
Oui, enfin moi je ne l'appelais pas comme ça, c'était le site des Monts d'Arrée qui devait contenir deux centrales nucléaires. Un prototype industriel qui est EL4 comme eau lourde, qui est à gauche là.
Donc une petite chapelle, hein. On n'est pas en face d'une grande cathédrale de la filière électronucléaire française là.
Oui, enfin au point de vue dimension ça ne change pas grand chose, mais au point de vue puissance, oui. Là il sortait entre 60 et 75 mégawatts électriques. Et les nouvelles centrales, comme tu dis, elles font entre 1000 et 1100 mégawatts électriques. Donc ça n'a rien de commun, oui.
Vous avez participé à cette épopée industrielle et aujourd'hui vous êtes assez sceptique, critique.
Disons que j'ai évolué. Hein. À l'époque, oui, quand on est arrivé là, on voulait montrer que les Bretons étaient capables d'être à la pointe, d'avoir une machine très sophistiquée et de la dompter, de la domestiquer et de produire de l'électricité à partir de l'uranium. C'est sûr, on était une centaine au CEA et à l'époque 60-70 à EDF, hein, puisque le CEA s'occupait du nucléaire et vendait la vapeur à EDF qui faisait de l'électricité derrière. On venait d'un peu partout, hein, Marcoul, Saclay. Pour la plupart, on avait déjà travaillé au CEA et on revenait au pays faire le métier que l'on croyait savoir faire, oui.
Donc ici, c'est chez vous, vous êtes breton ?
Et mes grands-parents avaient une ferme à côté de Morlaix, à 7 km de Morlaix, donc je suis chez moi, oui.
Alors EL4, quoi, la centrale de Brennilis, qui pose problème, disons, parce que ça devrait être la vitrine du démantèlement des centrales, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, quoi, le démantèlement, que ça pose problème aujourd'hui.
Quand je suis arrivé ici, on m'a dit « tu feras probablement une grande partie de ta carrière ici », et puis EL4 continuera pendant un siècle et demi après à exister. Le cœur ne sera pas démantelé, on m'a expliqué les raisons, hein, parce qu'il est en inox, et donc il va être irradié, il y aura du cobalt dont la période est une douzaine d'années, et la décroissance fait qu'il n'est pas raisonnable de s'approcher du cœur avant un siècle et demi, c'était ce que disait le CEA, et ce qu'il dit toujours d'ailleurs, je crois.
Combien d'années vous avez travaillé ici, à Brennilis ?
Donc j'ai passé 30 ans au CEA, dont 28 ans à Brennilis. J'avais passé 2 ans auparavant à Pierrelatte. J'étais électronicien donc d'aéronautique, je venais juste de me marier, donc il fallait que je trouve du travail, et Pierrelatte démarrait. J'avais des copains, hein, qui étaient allés, qui m'avaient dit « tu verras, c'est parfait, c'est propre, c'est l'avenir, viens avec nous ». Donc je les ai suivis à Pierrelatte. C'était l'usine d'enrichissement de l'uranium qui démarrait pour faire des bombaches. Hein. Quand j'y ai travaillé, il y avait l'usine basse, le début, qui tournait déjà. Moi, j'ai fait le démarrage de l'usine moyenne. Et ensuite, il y avait une usine haute et une usine très haute qui débouchait sur de l'uranium enrichi, très enrichi en uranium-235 pour faire des bombes. Et au bout de 2 ans, Pierrelatte, c'était quand même une très grosse usine, très militarisée, hein, très fliquée. Je ne m'y sentais pas à l'aise du tout. J'avais eu 1 ou 2 accidents de contamination. Et Brennilis s'ouvrait au pays. Donc j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Et je suis venu avec les autres copains démarrer Brennilis.
Il y a vraiment une distinction entre les deux filières, la filière militaire et la filière civile.
Oh, on ne peut pas dire ça. Tout ça, ça se mélange. Hein, parce que Brennilis, par exemple, était une centrale à eau lourde. On ne nous avait montré que l'électricité qui sortait. Mais en fait, il y avait une colonne à distiller sur le côté qui sortait le tritium en excès dans la pile. Et on sait que le tritium, on sait maintenant que le tritium, c'est le détonateur des bombaches. Donc il y avait probablement une double production. Et les Iraniens sont en train de construire l'équivalent de L4 actuellement, probablement pour avoir du tritium frais, puisque la période du tritium est quand même relativement courte. Et il faut de temps en temps renouveler les détonateurs des bombaches. Donc il y a toujours, autour du nucléaire, il y a toujours le militaire qui se promène un petit peu.
Donc même ici à Brennilis, il y avait aussi un intérêt militaire à ce que cette centrale existe et produise donc du tritium.
Théoriquement, on sait produire du tritium en dehors d'un réacteur, mais on constate que tous les pays ont fait des eaux lourdes pour avoir du tritium frais facilement et constamment sous la main. Donc la France avait sans doute cette arrière-pensée aussi.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire pour les hommes, est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour hyper et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre et les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes fêlées pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours. Arriva au Niger dans ces mines d'uranium, contamine les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium, de quoi niquer des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent. Des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance. L'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre les outils, les machines irradiées. On enterre les combinaisons, les gants pollués. On enterre et plus de place à l'ague alors dans l'aube. On enterre et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
La vitrine du démantèlement, voilà ce qu'est devenu la centrale de Brennilis en Bretagne, sur les monts d'Arrée. On avait construit cette centrale en 1967. Oh, puis on s'est dit, tiens, mais elle, c'est pas rentable. Oh, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? On était embêtés. Oh, on a eu une idée. C'était d'en faire la vitrine du démantèlement. Et c'était une expérience intéressante parce qu'on ne l'avait jamais fait. On a construit des centrales sans savoir du tout comment on peut démanteler ces choses-là. Et on en a pas mal à démanteler maintenant. On en a une 58 réacteurs atomiques français, qui beaucoup plus gros que celui-là, qu'il va falloir démanteler, mais on ne sait pas très bien comment faire. Voilà, là, on en est à la moitié du démantèlement. Il y a ceux qui sont partisans de continuer, ceux qui sont opposés à poursuivre ce démantèlement, parce que ben, voilà, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc, ça se partage, ça se divise, et surtout, ça se raconte avec Michel Marzin, un ancien technicien de la centrale de Brennilis, qui est à la retraite aujourd'hui, il a 73 ans. Vous allez voir cette discussion-là qui va s'installer avec un vieux copain, lui, qu'il retrouve, un ancien mécano de la centrale, Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Marzin.
Ah, salut.
Ça va?
Pour l'instant, ça va, comme disait l'autre, et toi, t'as l'air en pleine forme.
Vous êtes ancien collègue, c'est ça?
Ouais. Il y a combien de temps que t'es en retraite, toi?
Et 6 ans.
6 ans? T'étais à EDF, toi, ouais.
Bientôt retour à l'herbe ou pas, alors? Vous pensez quoi?
Le dôme, là, je crois pas qu'on le verra raser, nous, je crois pas.
C'est ton point de vue aussi? C'est ce qu'on nous disait, d'ailleurs, quand on est arrivé pour travailler. Moi, on m'a toujours dit, le cœur restera, mais c'est tout. Ouais.
Vous envoyez une équipe de taggers, là.
Ah ouais? Là, ils ont de quoi travailler.
Ben, ils ont eu de quoi faire, là.
Ouais, le pain.
Quelle couleur?
Je sais pas, ils auraient pu mettre des oiseaux, des machins dessus.
Ah ouais, ouais.
Mais ça rayonne un peu encore le dôme ou pas?
Non, le plus dangereux, il y a eu des gens qui sont mortaux, hein, ici, autour du Helgoat, par contamination. La contamination, ce qu'on respire ou ce que l'on ingère, qu'on a dans la paillasse, et après qui fait des dégâts. T'as été contaminé toi aussi, non? Ouais, toi aussi, ouais. Ouais. On en a tous pris, de toute façon, un jour ou l'autre, on avait beau faire gaffe.
Et donc des collègues à vous sont morts
Il y a des gens qui sont morts plus tôt.
Mais moi, je voulais pas me bosser avec un mec, c'était avec un autre.
Avec Maurice, ouais, c'est le premier qui est
un kamikaze.
Est mort. Ouais.
C'était un kamikaze,
ouais. Ben, je le voyais, il y avait une alarme, et il arrêtait, et puis on rentrait dedans, et ben...
Ouais, t'étais mécano, toi aussi.
Oh, ben, la merde, je dis, ben, je vais pas... Et je vais pas aller au suicide, quand même.
Mais tu sais que les patrons nous disaient le tritium, l'eau lourde, ça a une faible activité, et donc le risque existe, mais il n'est pas très fort, quoi. Et des gens comme Maurice l'ont cru.
Ah oui.
Ils allaient là-dessus comme si c'était de la flotte, quoi.
Ah oui.
Il y a du boulot à faire, t'es emmerdé, et tu te dis, je vais le faire vite, comme ça je prendrai pas beaucoup, et puis tu en prends plein la gueule.
Ouais.
Ah, c'était ça,
ah
hein.
Oui,
Moi, ça m'est arrivé
aussi,
hein.
Ah oui, il y a eu des... Certains jours, on en prenait.
Ah ouais, ouais, ouais. Après, on pissait. Pendant combien de temps tu as pissé après?
Ah ouais, l'infirmerie.
Et même quand il y avait des alarmes, il y avait déjà 10 fois la dose maximum admissible. Donc tu étais sûr que tu avais fait 10 fois le compte quand ça sonnait. Hein, donc pour le savoir, tu pissais dans une bouteille et tous les jours tu ramenais ta bouteille, ils faisaient un comptage sur la bouteille. Et ils arrivaient à voir combien que tu en avais eu dans le corps. Mais de toute façon, c'était jamais grave.
Non.
Il y a eu toutes sortes de cancers. Plus rapide que d'autres. La prostate, c'est 10 ans, 15 ans d'habitude. Hein. Et là, j'ai un copain, c'était 3 ans, 3-4 ans, crac, à dégager. Quoi. Il y a eu une accélération du processus. Et très peu de soins. Quoi. Le gars, Maurice, quand il a eu, ah, j'ai attrapé la grande maladie, et puis il savait que c'était fini. Quoi.
À quel âge il est parti alors ?
57, par là. Il venait juste de partir en retraite. Juste, il est 56. Ah ouais ? 56, ouais. Moi, je l'ai su, il venait juste de partir, quoi. C'est encore jeune, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on attend chacun notre tour, alors je sais pas. C'est vrai, hein, ça s'est ralenti un peu. Donc, ça a été lié, probablement...
Tu parles du tritium, et ben, moi, je me rappelle quand on travaillait aux échangeurs, Les stylos dosimètres étaient en budget, on ne savait pas combien qu'on avait pris.
Ouais, ouais. Au début, moi j'ai partagé. Au début, j'ai partagé avec les mécaniciens, puisque au début, il n'y avait pas de sous-traitants, tu sais. Donc je suis allé aussi dedans, là. Alors, ça montait vite, ouais.
Ah bah oui.
Ça montait vite. Donc au bout de un quart d'heure, 20 minutes, on te disait allez, sortez.
Ton stylo était en budget, ça ne savait pas combien que tu avais pris.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et aujourd'hui, vous êtes suivi encore ou pas?
Non.
J'ai demandé mon dossier médical il y a 4 mois, je l'ai eu. Et j'ai 2 ans dessus sur les 30 ans. J'ai que les 2 ans de Pierre Latte à Brennilis. Rien. Ils l'ont perdu.
Donc ils l'ont perdu.
Il n'y a que 2 ans dessus.
Ah, ouais.
Et sur les 2 ans, j'ai trouvé des traces d'uranium dans les urines, dis donc. Ils ne m'avaient jamais rien dit. Jamais. Jamais un mot. Mais les boîtes d'intérim qu'on a vues arriver après, alors... Là, c'était rien. Il y a un type qui s'est foutu un disque dans la cuisse. Là, ben, le lendemain, il était à l'hosto et puis on l'a plus jamais revu, quoi. Et moi, quand j'étais contaminé là, avec Loulou, là, il y avait un gars, on était 3 à être contaminés, 2 du CEA et un gars de l'intérim. Et ben, le mec de l'intérim, on l'a jamais revu non plus. Hein. Et il y avait le patron qui gueulait, « Ouais, vous avez d'autres traces, vous en aviez pris avant à l'AC, vous ne m'avez même pas dit, vous m'avez volé, c'était pas de la viande propre, tu vois un peu le genre, quoi. »
On connaît un peu n'importe qui. Hein. Moi, j'ai eu des méga qui me bossaient et moi qui ne savaient pas lire ni écrire.
On intégrait des gars dans nos équipes, quoi.
Bon, ben...
J'ai oublié ton prénom.
Jean-Michel.
Ah, ouais.
Et là, quand vous voyez là, à la télé ce qui se passe au Japon, ça vous fait quoi?
Même c'est une catastrophe, quoi, c'est tout. Quoi. Mais bon, ben.
Mais vous avez craint ça pendant votre carrière, que ça puisse arriver?
Ah oui, c'est les arrêts intempestifs, comme on disait, c'est vraiment chaud. Quoi.
C'est toujours chaud. Borderline, quoi.
C'est comme toi, quand tu dis, ben, y a des endroits, j'avais pas envie d'aller parce que c'était risqué, quoi.
On était jeunes et. Et fougueux, mais...
Allez, bonne journée.
Bon, allez.
Allez, salut Jean-Michel, j'étais content de te voir.
Un de ces jours.
Un de ces jours, ouais. Ouais, c'est un copain.
Notre stratégie, c'est la stratégie du démantèlement immédiat.
France 3, 22 février 2009.
Aussi rapide que possible.
André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ceci se fait très vite. Certains démantèlements peuvent durer 20 ou 30 ans, mais il faut le commencer dès que possible. Et il faut le commencer dès que possible, de façon à pouvoir utiliser la mémoire des personnes qui ont travaillé dans l'installation.
Alors là, la question du démantèlement, là, justement, là, on voit un bras de grue qui s'est élevé le long du réacteur, hein, du bâtiment réacteur. Et il y a un ouvrier qui est tout en haut, là, en train de boucher un trou.
Tu vas être obligé de donner un secret de famille, là. Il sait pourquoi.
Moi, Gérard Bonvron, j'ai aussi participé aux actions qui ont été menées ici sur la centrale de Brennilis. Hein. J'étais professeur de physique et donc motivé par cette lutte, embarqué tout de suite pour justement apporter un peu d'éléments techniques, quoi. Bon, a priori, je n'étais pas un spécialiste de la physique nucléaire, mais on s'y met vite, hein. Surtout qu'à l'époque, il y avait des scientifiques vraiment chevronnés dans ce domaine, qui avaient constitué le groupement des scientifiques pour l'information sur le nucléaire, avec des physiciens nucléaires, et c'était assez vite qu'on avait toutes les informations, quoi. Puis avec des gens comme Michel, qui étaient sur le terrain en plus, on complétait tout ça. Donc c'est à cette occasion, effectivement.
Alors qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors il y a un ouvrier qui est là-haut. Il est assez, assez haut perché.
Une cinquantaine de mètres, hein, 50, un peu plus de 50.
C'est,
oui.
C'est toi, Michel, qui nous disait qu'elle fuyait quand on voyait des rustines parfois et que vous trouviez les trous en mettant du parfum de rose, c'est pas ça?
Tu nous avais raconté ça. On a jeté du parfum de rose à l'intérieur. On avait des copains qu'on appelait les sniffers qui faisaient le tour. Et donc, ils cherchaient le parfum de rose et quand ça sentait vraiment beaucoup la rose, eh bien, hop, on mettait une rustine.
Une rustine, donc, sur le bâtiment réacteur.
On les voit très bien, oui.
On les voit, on peut s'approcher un peu.
On peut imaginer que s'il y a des rustines, il y avait des infiltrations. Donc, tout le béton le long de l'infiltration doit être quand même plus ou moins contaminé, quoi.
Voilà, il est en train de piquer le béton. Il doit y avoir un bout de ferraille. On voit les rustines à côté, quand même.
Comme les sparadraps noirs, là, les petits carrés noirs.
Mais c'est bien, parce que si on veut le laisser encore un siècle, il vaut mieux le maintenir en état qu'il ne s'écroule pas, quoi. Qu'il n'y ait pas de fissures.
Oui, oui. Et bon, alors ce qu'on a su assez vite, mais par des informations internes, c'est que dès le début, cette enceinte, elle fuyait.
Alors aujourd'hui, ici, c'est la deuxième manche, quoi. Hein, c'est la manche. Il y a eu la première manche, c'était la construction, donc lutter contre la construction, et maintenant, il faut lutter contre le démantèlement, la déconstruction. C'est quand même costaud, quoi. Vous avez fait les deux luttes. Alors vous êtes des deux luttes. Donc 30 ans plus tard, c'est ça? Il faut maintenant se battre à nouveau, mais cette fois-ci pour limiter les dégâts, quoi. C'est ça.
Pas faire n'importe quoi.
Voilà, je pense à Michel que c'est plutôt ce qu'il faut dire. On ne peut pas lutter contre le démantèlement des centrales nucléaires parce qu'il faudra toutes les démanteler un jour ou l'autre. Hein. Mais lutter pour que ça se fasse dans des bonnes conditions, proprement, sans risque pour la population, pour les travailleurs qui sont dedans, quoi.
1 000 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur qui a été donné et qui probablement est sous-estimé encore.
Pour démanteler ce qui existe. Donc c'est une somme incompressible qui sera nécessaire pour aller de l'avant ou arrêter, quoi qu'il arrive.
Parce qu'il arrive, il faut provisionner cette somme-là. 1 000 milliards de dollars, on en est loin. Hein. Donc en fait, on reporte sur les générations qui suivent.
Bonjour, le Centre d'information du public de Brenilis. Et j'avais sollicité une visite de la centrale. Alors là, je suis à Brenilis, j'ai vu qu'il y avait eu une visite presse le 4 avril. Alors je suis quand même un peu déçu de ne pas y avoir été convié. Henri Proglio prenait la transparence, qu'elle était due au public, etc. Donc bon, il faudra que ça passe aux actes un peu, quoi. Sinon, c'est de la com, quoi. On est dans la com et pas dans l'information. Donc pour un centre d'information du public, ce serait quand même pas mal, quoi. D'accord, merci. Au revoir.
Il est têtu, ce Tchao. Hein, il croit à la transparence, à l'information, à tout ça. Il est têtu, il est un petit peu naïf. Et il rencontre Olivier Herry, l'ancien de la centrale et ancien maire de Brenilis. Olivier Herry.
Monsieur Herry, donc, vous avez été maire de Brenilis.
J'ai été maire pendant 5 ans et demi. Et pendant 5 ans et demi, j'ai eu donc l'après centrale nucléaire, donc la reconversion du site. Et cela m'a pris beaucoup de temps. Je venais d'arriver à la retraite après, puisque j'ai travaillé 30 ans dans le nucléaire, dont 8 ans à Marcoul et le reste des 30 années à Brenilis. Et j'ai donc eu la reconversion du site de Brenilis à mon compte et cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai démissionné au bout de 5 ans et demi parce que je ne voulais pas cautionner l'EDF, la préfecture et les services de l'État qui nous ont un peu laissés dans l'embarras. Avec...
Mais justement, là se pose la question du coup du démantèlement des installations.
Savoir si vraiment on maîtrise ce coup. Je ne sais pas si les provisions sont suffisantes. EDF dit que les provisions sont suffisantes, mais j'en suis pas tellement sûr. Parce que le démantèlement de Brenilis, au départ, il avait été dit que le démantèlement coûterait autant que la construction. Et je crois qu'aujourd'hui, on a dû dépasser de 3, 4, 5 fois ce qui était prévu à l'origine.
Mais l'avenir d'EDF, c'est aussi d'être capable de démanteler les centrales françaises et aussi le parc de centrales en Angleterre qu'elle a acheté il y a quelques années, hein, les vieilles centrales en fin de vie. Donc EDF se positionne avec un savoir-faire de démantèlement, mais qu'elle n'a jamais pratiqué, et qu'elle bute sur un petit réacteur qui est celui de Brunilis.
Oui, tout à fait. Ce qui a été démantelé, c'était relativement facile et peu dangereux par rapport à ce qui va arriver. Lorsque va arriver le démantèlement du réacteur, là, je me pose des questions. Ce cylindre de 4 mètres de diamètre sur 4 mètres de long, fortement irradié à l'heure actuelle, ce n'est pas tellement pour l'extérieur. Je pense que l'enceinte étanche est suffisante pour assurer la sécurité par rapport à la population, mais ce sont les ouvriers qui vont travailler sur le réacteur. Et là, j'aimerais bien avoir, avant que ça commence, le détail de l'ouverture de ce cœur, parce qu'il faudrait bien l'ouvrir par quelque part.
Donc là, il y a eu une enquête publique qui a demandé à arrêter le démantèlement. Vous pensez que c'était une bonne chose ?
Oui, parce que cela a obligé, je pense, EDF à réfléchir plus fortement sur les sécurités à prendre. De ce côté, il faut remercier, je pense, tous les écologistes et antinucléaires qui ont peut-être freiné le démantèlement, mais qui, d'un autre côté, ont obligé à avoir beaucoup plus de rigueur dans ce démantèlement, qui doit être un prototype mondial, ne l'oublions pas. Donc on a intérêt à bien le faire. Maintenant, la robotique, qu'est-ce que la robotique pourra assurer la protection des travailleurs qui vont tourner autour de ce cœur, je ne sais pas comment ça va se passer. Je me pose la question, en fait. Oui, voilà.
Alors, on sait fabriquer des centrales, hein, des belles centrales nucléaires, mais a priori, on ne sait pas vraiment les démanteler. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui ici à Brunilis.
Donc, Chantal Cunier, je milite au sein de Sortir du nucléaire Cornouailles avec Marie-Nicolas.
Effectivement, ce démantèlement s'allonge, pose problème.
Ça fait 25 ans, c'est ça, que le démantèlement a démarré pour un hypothétique retour à l'herbe. C'est poétique, hein, retour à l'herbe.
Je pense qu'il faut plutôt parler de retour à l'herbe contaminée, car on sait que les sous-sols sont fortement contaminés et qu'ils n'arriveront pas à enlever cette contamination.
Le principal souci qu'on a, c'est que ce travail de démantèlement qui reste à faire est celui qui est le plus difficile. Et nous, notre principal souci, c'est les travailleurs qui vont faire le travail, parce que même les robots, ils peuvent tomber en panne. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets ? Est-ce qu'on va les imposer à d'autres dans la région ? Notamment, donc, on nous parle du budget.
Du budget dans l'Ain.
On nous parle de la création d'un centre qui s'appelle ICEDA, qui doit normalement se créer et s'ouvrir, pour lequel nous avons fait recours parce que on ne dit pas exactement ce que sera ICEDA. Et ça se trouve au bord du Rhône, dans une zone sismique, avec donc des déchets qui seront radioactifs. Donc là, on a aussi une inquiétude. On ne veut pas céder plus loin notre problème qu'on a ici en Bretagne.
Donc là on met à mal vraiment la politique nucléaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de démanteler correctement une centrale aujourd'hui.
Ils ne l'ont pas du tout prévu quand ils ont construit les centrales nucléaires. Ils ont toujours eu ce discours de dire « mais la science apportera des solutions, la science apportera des problèmes ». Et 50 ans, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. La radioactivité, il faut attendre. Alors, des années, des centaines d'années, voire des milliers d'années, voire des millions d'années pour certains éléments qu'on a créés.
La France peut-elle se passer du nucléaire ?
Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire.
Jean-Marc Sylvestre.
À condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen Âge.
Jean-Christophe Couty, vous êtes directeur de la centrale de Brunilis et en charge donc du démantèlement, c'est ça ?
C'est exact.
Donc déjà une première chose, je suis quand même assez déçu de ne pas avoir pu visiter cette centrale. Il y avait des visites au public et des visites à la presse. Puis bon, malgré mes demandes insistantes, je n'ai pas pu profiter de ces visites. Alors pourquoi ?
Alors vous faites allusion effectivement donc à cette semaine de l'industrie. Je pense que malheureusement, vous concernant, il y a sans doute eu un oubli. Et de fait, vous n'avez pas été appelé pour participer à ce lundi réservé à la presse. Et de fait, j'en suis désolé.
J'imagine, écoutez, nous aussi, parce qu'on aurait aimé aussi pouvoir approfondir notre recherche et pouvoir satisfaire votre PDG, Henri Proglio, donc, qui prône une transparence totale et dit qu'elle est due. Elle est due aux citoyens, donc c'est raté pour cette fois, je dirais, mais bon.
Mais ce n'est peut-être que partie remise, parce que, comme je vous le dis, vous avez été nombreux au niveau des médias à vouloir couvrir cet événement. Je pense que, bon, voilà, et on a eu là, avec vous, un raté. Ce que je vous propose, c'est effectivement, lors d'une prochaine visite, de vous joindre et de couvrir cet événement.
Merci beaucoup.
C'était une nouvelle version du reportage d'Antoine Chao à Brennilis. Merci à Michel Marzin, Gérard Borvo, Olivier Herry, Bernadette Lalouette et à Chantal Cunier. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-bas.org et sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Romain Lucquien, c'est Florent Beauvallet. Réalisation Bertrand Chomton et Franck Adhérer, assisté de Marina Touyez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la Bassie J'y suis au 01 56 40 37 37.